Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten sans flamme. Oh, la musique de la Ligue des Champions. Et quelle soirée de Ligue des Champions. Il y aura 18 matchs en même temps. Un énorme multiplex. Tout se passe sur RMC, comme d'habitude. L'avant-match dans Rotten sans flamme, comme d'habitude. On aura tout. Les compos, on aura les objectifs, ce que les clubs risquent. On va faire ça pendant 2 heures, on va se régaler. Et puis surtout, on a autour du plateau beaucoup de gens qui ont joué la Ligue des Champions et qui ont brillé en Ligue des Champions. À commencer par Benoît Boutron. Salut Benoît.
Devant la télé, c'est sûr. Salut Jérôme, salut à tous.
PlayStation, ouais. C'était très simple.
Imprenable.
Ah, il connaît la musique, c'est Christophe Dugarry. Ah, salut Christophe.
Oui. Salut Dugas.
Salut les poulets, comment allez-vous?
Ça va?
Bonsoir à tous. Ouais, ça va très très bien, ravi d'être là pour le dénouement. Enfin.
Ah ouais, là,
ah oui, oh.
Enfin,
ouais. Enfin.
Là, c'est enfin.
Ah, soirée historique.
Et, oui. c'est pour ça, Dugas, on a sorti du lourd, on a sorti Ballon d'Or avec nous. Ah oui. Jean-Pierre Papin, salut Jean-Pierre.
Salut les amis, comment ça va?
Bonsoir Jean-Pierre.
Et toi JPP, le genou alors?
Ça va, ça cicatrise tranquillement. Hein.
Bon, bah tant mieux.
Voilà. Ouais.
On a enlevé le bout de cartilage qui se baladait. Terminé.
C'est ça. Ouais. C'est ça.
À vu l'âge, il faut prendre le temps.
Hein. On est bien d'accord.
Sur Rotten sans flamme, spécial Ligue des Champions ce soir. C'est la dernière journée de la phase de poule. Les 18 matchs en intégralité dans l'After Live à partir de 20h. Les enjeux pour Paris, Marseille et Monaco à 19h. Rotten se chauffe. Est-ce que manquer le top 8, ce serait un échec pour le PSG, supporter parisien? On vous attend au 32-16. À 18h45, allô Jérôme, on a convoqué le commentateur numéro 1 de la RTBF, voilà, la chaîne belge, pour nous parler de Bruges. C'est Manu Jousse qui sera avec nous. Il va nous parler donc de cette équipe du club Bruges. Et puis à 18h30, ce sera le procès d'un autre Belge, le procès de Pocognoli, l'entraîneur de Monaco, qui vise clairement le match nul ce soir face à la Juve. Ouais. Et oui, un point suffit. Bah lui, il a dit, nous, on va essayer d'aller chercher ce point.
Oh, bon.
Voilà, vous l'entendrez. Il suivra avec intérêt les résultats du soir et les conséquences sur la potentielle qualification de l'AS Monaco. Et puis, on a un événement handball ce soir parce que c'est une sorte de quart de finale à l'Euro entre la France et l'Allemagne à Herning. C'est la dernière journée du tour principal. Salut Nicolas Paul Orsi.
Salut les amis, salut à toutes et à tous. Oui, c'est un dernier match de poule, mais c'est un quart de finale tout simplement parce que l'équipe qui gagne se qualifie pour les demi-finales de l'Euro. C'est parti depuis 1 minute 50, un partout entre la France et l'Allemagne. Et bien évidemment, ce match, ça nous fait penser aux Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est la dernière fois qu'on a joué les Allemands en compétition officielle. Les Allemands qui avaient causé à l'équipe de France sa plus grosse défaite dans l'histoire du handball français en s'imposant à Paris avec cette perte de balle tragique de Dikamem. Vous vous en souvenez, à 6 secondes de la fin. Dikamem, il est sur le terrain et c'est lui qui vient de marquer le premier but des Français. Un partout, 2 minutes de jeu.
Magnifique. Vous vous souvenez ce traumatisme aux Jeux Olympiques?
Oui, mais non, mais on ne veut pas de défaite de l'équipe de France dans Rotten sans flamme. Ça ne va pas.
Voilà, on veut que ça passe et se qualifier pour les demi-finales. Merci Nico, le match.
Il ne va pas être chat noir tout le temps.
Il sera bien
Nico,
suivi dans Rotten sans flamme. Allez, 18h03 sur RMC tout de suite. L'OM veut revivre les grandes émotions du passé.
Ouvrez les yeux. Ouvrez les oreilles. Pour réussir ce soir, il faut vraiment que vous soyez animé d'autre chose que vos qualités humaines. Un supplément d'âme.
Maxi, de votre vers Linden. Le but pour Marseille, victoire pour Marseille, ainsi que la qualification pour la finale.
Ce que vous accomplissez, c'est juste gigantesque.
Luis Enrique, qui s'élance, qui frappe et qui marque.
Ah oui,
goal, demi-finale de Coupe d'Europe.
C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant.
Ça caille. C'est le but. 5-2, l'Olympique de Marseille est en demi-finale de la Ligue Europa.
Ce qu'on va voir, c'est des gens qui attendent ce soir de vous serrer dans leurs bras.
Rolando est qualifié de l'Olympique de Marseille en finale de l'Europa League.
À l'issue de la rencontre, vous serez des héros. Bon match à tous.
On va se régaler encore toute la soirée, toute l'émission, la soirée. C'est sur RMC que ça se passe.
Marseille doit donc assurer sa qualification pour les barrages de Ligue des Champions ce soir à Bruges. Une victoire les qualifierait directement. Un nul a de fortes chances de les envoyer en barrage. Et même une défaite ne serait pas forcément rédhibitoire. D'après les spécialistes des stats Opta, l'OM a 5% de chances seulement d'être éliminé. Donc, a priori, Marseille pourrait accéder à ces barrages. Rappelons que l'OM n'a plus...
Gérer.
Bah non, il n'y aura pas de gestion. Marseille n'a plus disputé la phase à élimination directe de la Ligue des Champions depuis 2012. Mmh. On en parle.
Pour la jouer, il faut, pour jouer les phases de élimination directe, il faut déjà jouer la Ligue des Champions.
Il faut
champions.
Y être souvent, ce qui n'arrive jamais deux années de suite, en tout cas depuis 15 ans. Florent Germain, on l'a envoyé à Bruges pour commenter ce match. Ah bah salut Flo.
Salut les amis, salut à tous. Alors, tout Robert... le monde me parle de Jean-Pierre Papin, c'est incroyable.
C'est pas vrai?
Bah à Bruges,
un petit peu, un petit peu.
Ah bah évidemment, bah
faut
oui.
Pas oublier.
Il a les joué gens. À Bruges. Hein.
Il y a des maillots papins quand même dans les tribunes de l'OM habituellement ou pas?
Oui, oui, ouais, il y a des maillots papins. Ouais, bien sûr, bah oui, bah il y a des maillots papins, Waddle, bon Boli.
Dugarry, mais... non
Dugas, il y en avait un, mais je ne le vois pas. Plus depuis quelques temps. Ouais. Ah. C'est ça. Ouais. Le maillot or, non, je rigole. Dugas, il y est, bien sûr qu'il y est. C'était un maillot très recherché parce que c'était l'année du centenaire et avec le col magnifique, là,
le maillot
or.
De l'histoire de l'OM. Maillot
non, non, le maillot Dugas, c'est un maillot important.
Bon, Flo, tu as assisté à la conférence de presse d'avant-match. Roberto De Zerbi a parlé d'un rendez-vous historique pour l'OM.
Oui, alors historique, c'est peut-être un adjectif qui a pu surprendre quand il a dit ça samedi soir. C'était après OM Lens. Alors, il est revenu là-dessus hier. On va l'écouter en conférence de presse. Il parlait de match historique en pensant principalement, et tu l'as dit Benoît, au fait que l'OM n'a pas disputé un match à élimination directe en Ligue des Champions depuis 2012 et que en gros cela validerait la progression du club. Mais il y a plein d'autres raisons de considérer que c'est un rendez-vous majeur, écoutez, aux yeux de l'entraîneur italien.
Je dis ça déjà à titre personnel car j'ai déjà joué cette compétition avec le Shakhtar et je n'ai pas réussi à sortir des poules. Donc déjà ce serait pour moi quelque chose de magnifique. Et puis pour beaucoup de joueurs de l'effectif, je ne crois pas que beaucoup aient eu la chance de jouer des matchs de phase finale de Ligue des Champions. Et ça fait de longues années, il ne faut pas l'oublier, que l'OM n'est pas arrivé à ce stade de la compétition. Et puis je le dis car j'ai confiance en mon équipe. Si on devait passer dans cette phase à élimination directe avec des gros matchs aller-retour, je répète souvent que mon équipe est capable de perdre et de gagner contre n'importe qui, donc je vous garantis que ce ne sera pas perdu d'avance.
Voilà, donc il a envie d'en découdre dans des matchs à élimination directe, le parfum des barrages, d'un potentiel huitième, un vélodrome plein à craquer, donc ça c'est très attendu par les supporters. Bon, c'est assez rigolo et cocasse parce que rappelez-vous, en début de compétition, on a souvent répété que l'OM ne se fixait aucun objectif dans cette Ligue des Champions et restait du coup très prudent avec ce retour en C1, mais effectivement s'il y avait un barrage, l'OM, Roberto De Zerbi, Mehdi Benatia, Pablo Longoria auraient le sentiment de valider de mettre un tampon sur cette progression de l'Olympique de Marseille depuis quelques saisons.
Et c'est donc la une de Rotten sans flamme. Est-ce un match historique pour l'OM 32-16 pour participer avec Jérôme, avec Dugas, avec JPP? Jérôme, est-ce que c'est un match historique alors?
Ah, ce soir, non, ça n'a rien d'historique du tout. si on m'explique qu'à Marseille, après avoir gagné la Ligue des Champions, alors maintenant c'est un autre temps, on est d'accord, hein, ça fait quelques années, mais c'est quand même, ça veut dire que Marseille a déjà existé à un autre niveau en Ligue des Champions, a déjà fait beaucoup d'épopées en Coupe d'Europe, sans forcément gagner. Il y a eu des finales aussi de Coupe d'Europe. Donc, t'imagines bien que se qualifier en 16e de finale de la Ligue des Champions, il n'y a rien d'historique
du tout. 14 ans.
Et surtout, et je vais aller plus loin, il y a surtout arrêter de me parler d'exploit. Parce que quand tu regardes la formule, l'objectif de l'OM, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux qui l'ont dit, c'est de finir dans les 24
barrages.
Ouais. D'accord. Ok. Donc là, ils sont dans leurs objectifs. Est-ce que quand, au début de saison, ils t'ont dit, si on est dans les 24, c'est historique, ça serait fantastique parce que, bah, on est plus armé aujourd'hui pour finir entre la 25e et la 36e place. Mais on serait foutu de leur tronche s'ils avaient dit ça. Parce que les moyens de l'Olympique de Marseille font que, et le recrutement, qui a été jugé par l'encadrement de l'Olympique de Marseille et par De Zerbi, un très bon recrutement avec une équipe qui est très forte. Même lui, il le redit encore. Moi, j'attends de voir, parce que c'est un peu contradictoire ce qu'il nous raconte. Il nous dit, cette équipe de l'OM, elle est capable de perdre contre tout le monde, mais aussi de gagner contre tout le monde. Mmh. Bah, j'ai pas l'impression que t'as gagné contre tout le monde en Ligue des Champions cette année. T'as eu 7 matchs à jouer, t'as 4 défaites.
Et le Real, le Sporting, la Talenta, Liverpool.
Et les victoires, à part, allez, on va dire, Newcastle,
l'Union Saint-Gilloise.
Qui est une très belle équipe, on le voit, Newcastle, tous les week-ends en première ligue, on est d'accord. Mm. Mais bon, on va dire que le mérite, s'ils n'étaient pas favoris sur ce match-là, ils l'ont gagné. Mais derrière, t'as pris des claques contre Liverpool, t'as gagné à l'arrache contre l'Union Saint-Gilloise, à l'arrache, parce que s'il n'y avait pas les dieux du stade qui étaient là ce soir-là, je pense que tu ne gagnais pas. D'accord. Ça s'est joué à 2000.
Il parle plus d'un sentiment qu'il a, Jérôme, par
rapport au fait que contre le Real, ils ont eu la sensation de rivaliser, oui, oui, d'avoir été malheureux contre Paris. On va pas revenir sur les deux rencontres où Marseille a regardé le PSG dans les yeux, comme on dit. Donc c'est plus une sensation qu'il a et l'envie de voir ce que ça donne dans des matchs aller-retour, oui, avec un parfum spécial. C'est ça,
je veux dire. T'es d'accord, Flo, aussi, que quand il te dit ça, bien sûr que t'as envie de vivre ça quand t'es à Marseille avec un stade de 60 000 personnes poussées. Bien sûr qu'il y a une excitation particulière. Mais nous, on est aussi là pour la passion, c'est très bien. Être supporter d'un club, c'est très bien. Mais mettre le pied sur le frein en disant, écoute, à chaque fois qu'il y a des matchs importants en Ligue des Champions, même si, en effet, et t'as raison, Flo, il y a eu match à Madrid, au Real. C'est toujours pareil, tu perds le match, mais on va dire que tu les as contrariés, d'accord. Mais à part ce match-là, tous les matchs où on attendait Marseille, que ça soit à domicile contre l'Atalanta, on parle de l'Atalanta à domicile.
Mais historique, le mot est fort, Jérôme, ça c'est sûr. Mais je pense que dans son discours, derrière ça, en toile de fond, il y a le fait que bon bah c'est pas de ma faute si depuis 14 ans.
Mais c'est vrai.
Tiens, eux, ils se disent bon, on a commencé en gros le vrai projet il y a un an et demi quand l'entraîneur italien est arrivé. Bah eux, ils se disent bon, au bout d'un an et demi, au moins on a validé cette étape-là.
T'as raison, mais côté historique, déjà il faudra attendre le déroulement du match ce soir. Mais imagine. Tu nous dis que c'est historique si tu te qualifies ce soir, parce que je pense qu'en effet l'OM, même en perdant, ils vont se qualifier, tu vois.
Il y a des chances,
mais imagine juste, tu te qualifies en perdant et ce soir on t'a dit avant le match, c'est historique, on est qualifié pour les 16e de finale de la Ligue des Champions en ayant joué 8 matchs, perdu 5 matchs et gagné que 3 matchs.
Et l'objectif sera rempli. Oui, tu seras en barrage.
Ça sera pas historique, mais ça sera un exploit. En effet, de passer les barrages et de te qualifier en 8e de finale, d'être dans les 16 meilleures équipes européennes.
Vas-y, Jérôme, si je peux me permettre.
Historique en italien, c'est un mot qu'on emploie très souvent pour dire que c'est important. C'est pas l'historique comme nous, c'est historique sur le temps, etc.
D'accord.
Mais moi, je pense que
on a hâte de parler français quand même.
Oui, mais moi, je pense que De Zerbi, il a besoin de lui se mettre une très très grosse pression. Pour la faire passer à ses joueurs après. Parce que moi, le connaissant un petit peu, sur certains matchs où j'avais été aux abords du vestiaire, c'est quelqu'un qui il va être peut-être avoir plus le visage fermé que beaucoup d'autres en entrant, parce que lui, il a une très très grosse pression. Et je pense que ça lui permet, je pense, de se mettre dans le truc direct et de faire passer après ça aux joueurs.
Est-ce qu'il joue gros ce soir, JPP, De Zerbi, alors?
Non, je pense que c'est un match important. En plus, non seulement c'est un match important, c'est un match qui est largement dans leur corde. Même malgré tout, s'ils matchent nul ou même peut-être même ils perdent, mais soir ils vont pas perdre, ils se qualifieront. Et l'objectif, quoi qu'il arrive, avéré au départ, c'était de se qualifier dans les 24.
Exactement,
après,
ça c'était l'objectif, ça, on est d'accord.
Et voilà, le podium en Ligue 1 pour se requalifier pour l'édition prochaine.
Ouais. Exactement.
Dugas, est-ce qu'il est historique ce match pour l'OM alors?
Écoute, ça arrive pas si souvent que ça, mais je partage beaucoup d'arguments et d'éléments qu'a cité Flo. Voilà, je suis assez d'accord avec lui. Faut pas trop accorder trop d'importance à ce mot historique aussi. Parce que c'est déjà historique pour lui, De Zerbi. De Zerbi, il a 13 matchs de Ligue des Champions, il n'a gagné que 3. Ouais. Donc déjà pour lui, c'est historique. Pour lui déjà, comme moi je l'ai déjà dit, c'est une chance pour lui d'entraîner l'Olympique de Marseille. C'est une opportunité qui lui est donnée. Il prend les choses à cœur avec beaucoup de passion. Tant mieux pour lui, tant mieux pour le club. J'espère que ça va permettre à ses joueurs de passer ce tour-là et de vivre des moments super, parce que la Ligue des Champions, c'est le must. Il n'y a pas mieux, hein, sincèrement, en qualité de foot, de match et tout ça. C'est génial. Donc voilà. Après, historique, non. Marseille, l'histoire quand même de l'OM, c'est autre chose que ça. Après, faut quand même pas oublier, parce que De Zerbi aime beaucoup les faits. Il faut toujours se rappeler aux faits. Ils ont quand même une armada. Ils ont quand même de quoi faire. Ils ont quand même de quoi passer.
Bah, c'est pour ça. Exactement.
En 16e de finale. Donc,
t'imagines que Karabag, Galatasaray, Leverkusen avec tout ce qu'ils ont perdu, le PSV Eindhoven, Bilbao, l'Olympiakos, ils risquent de passer.
Oui, bien sûr. En plus, cette nouvelle formule facilite un petit peu pour arriver dans ce 16e de finale. Donc voilà, il y a des sacrés joueurs, ils ont une bonne équipe. Sincèrement, il a les billes pour pouvoir se qualifier largement. Le travail de Benatia et de Longoria, une nouvelle fois, ils l'ont trouvé deux joueurs, deux espèces de pépites pour aller jouer ces matchs-là. Bon, voilà, tout n'a pas été parfait, mais il y a de quoi quand même bien travailler et se qualifier. Et quoi qu'on en dise, comment ça, ils ne seront pas qualifiés?
Non, ils peuvent pas jouer ce match-là, les nouvelles recrues, c'est ce que veut dire.
Voilà. Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais après, ça permet le match d'avant de se reposer.
Bien
ça
sûr. Permet, tu vois, bah, c'est ce qui a permis de mettre des nous de repos.
Ce que je veux dire, c'est que, ouais, à chaque fois que De Zerbi, il a eu des joueurs qui voulaient plus, à chaque fois que ça a été un petit peu dans la difficulté, on lui donne toutes les billes pour réussir, pour y arriver, tout ce qu'il demande, on lui donne. Donc voilà, il est dans une situation, dans un contexte hyper favorable. Et quoi qu'on en dise, moi, je trouve que ça serait important. Alors, pas historique, mais décisif dans le projet qui est sur 3 ans. Et quoi qu'on en dise, le projet, il n'est pas de se qualifier à la Ligue des Champions à 3 ans. Il est de se qualifier pour sortir de se faire un CM de finale au bout de la 2e année. Et l'année prochaine, essayer de confirmer. Parce que ne rêvons pas quand même. Aujourd'hui, ne rêvons pas. L'OM, avec le budget qu'ils ont aujourd'hui, ils ne feront pas mieux l'année prochaine. Ils sont au maximum, oui. À mon avis, de ce qui peut être fait. Donc, je vais pas dire que...
Au maximum, peut-être pas. Peut-être pas.
Si, 260 millions d'euros de budget, mais ils sont au maximum. Tu crois que le propriétaire, il va continuer à envoyer des millions et des ci et des là à chaque fois. Non, moi j'ai l'impression que le staff fait des miracles à chaque fois à recruter des espèces de pépites. Attention, Aguert, Højbjerg, ils ont trouvé, il y en a des tonnes de joueurs qu'ils ont réussi à acheter, Emerson qui est blessé ce soir, ils ont réussi, ils ont quand même bien travaillé. Alors il y a eu des échecs bien évidemment, mais je trouve que dans l'ensemble ils ont réussi à faire
tu peux pas me dire que Højbjerg, Aguert, attention, c'est des bons joueurs, mais bon, c'est pas non plus c'est pas des cadors non plus, tu vois.
Quand
tu vois
les peuples jouer en Ligue des Champions quand même.
Non, mais ça peut être suffisant pour passer les poules et jouer un barrage ou un huitième. Mais d'ailleurs, quand vous dites qu'il y a du matériel, j'ai listé, parce que avec la déclat de De Zerbi, j'ai regardé quels joueurs avaient déjà passé les poules et joué des matchs à élimination directe dans cet effectif. Il y en a quand même quelques-uns. Rouli, Højbjerg, Kondogbia, Aubameyang, Greenwood, notamment contre le PSG là, au parc avec Manchester. Pai Chao, il a fait un barrage après il a été blessé. Wea, et je compte pas Pavard et Emerson qui sont blessés. Donc il y a quand même, ce que dit Duga, c'est qu'il y a du matériel. Alors, et que ça quand même implique le fait de se qualifier, quoi.
Flo, ils nous l'ont présenté comme ça en début d'année pour nous expliquer pourquoi ils avaient recruté autant et pourquoi ils avaient accepté que certains partent. C'était pour aussi gagner un petit peu en expérience pour en perspective la Ligue des Champions, pour atteindre l'objectif de se qualifier pour les barrages. En effet,
c'est un vrai coup d'arrêt, Jérôme. S'ils se qualifient pas, c'est un
vrai
coup d'arrêt.
Ah non, mais c'est terrible.
C'est pour ça que De Zerbi, il joue.
Mais ils vont se qualifier, mais même en perdant.
Moi, j'en suis convaincu aussi. Je pense que comme Jean-Pierre, qu'ils perdront pas ce soir.
Ils vont
se qualifier. Mais après l'exploit,
il sera en effet, vu les moyens. Et là, je vous rejoins avec
de
Flo.
Le barrage.
Du gars, c'est que, en effet, si tu passes les barrages, peu importe contre qui, tu rentres dans le cercle très fermé des 16 meilleures équipes européennes.
Exactement.
Avant d'accueillir d'autres choses.
Stéphanie qui nous attend en 32-16, avant d'avoir la compo probable avec Flo Germain, le direct, le handball et ce match du tour principal décisif pour les Bleus face à l'Allemagne, Nico Paolorsi.
La 17e minute et les Français sont menés de 2 buts par les Allemands, 9-7. Il y a un exceptionnel Dika même pourtant, hein. On le disait, ultra revanchard, c'est ce qu'il nous disait hier. Il a marqué 4 buts côté français, mais on a du mal.
Le gardien ne fait pas un arrêt.
Ouais, si, il fait des arrêts par rapport au gardien allemand. Le gardien allemand a fait qu'un seul arrêt, le gardien français 3, tu vois, Jérôme. C'est compliqué un petit peu dans le jeu. 9-7 pour l'Allemagne, ballon pour les tricolores pour revenir à un but. Il reste 14 minutes dans cette première période.
Stéphanie, supportrice de l'Olympique de Marseille, est avec nous au 32-16, Jérôme.
Supportrice, ouais. Salut Stéphanie. Bonsoir. Bon, écoute, tu as la parole. Voilà, on te coupe pas. Qu'est-ce que tu penses de ce match ce soir? Est-ce que c'est historique?
Alors, ça ne sera pas historique, ce que disait tout à l'heure au standard. C'est pas historique comme un titre en Ligue des Champions. Mais, mon point de vue de supportrice, qui en a marre de se taper des 800 km aller-retour comme la semaine dernière pour prendre 3-0 à domicile, on a envie quand même cette victoire. On a envie de passer le cap. On a envie, au moins pour une fois, ça fait tellement d'années qu'on est ridicule. En Ligue des Champions, pas un point. Moi, j'étais quand on joue contre Tottenham, là, qu'on se prend le dernier but à la fin. J'étais à Madrid où on y a cru, hein. On y a cru. Je suis allée jusqu'à Madrid. On repart, on a perdu 2-1. On était quand même plein d'espoir. Et là, c'est l'ascenseur émotionnel. Être supporter de l'OM, faut s'accrocher parce que on passe d'un match contre Paris exceptionnel où on s'étale après au tir au but. Après, on a le match de Nantes. Enfin, on a le match de Nantes avant. On joue contre Lens, on fait un super match. Liverpool, on fait rien. Donc, c'est dur d'être supporter de l'OM. Donc, on a envie quand même Nous, en tant que supporters, on a envie d'aller au moins en 16e, même si on sait que la Ligue des Champions, elle ne gagnera pas. Mais
ah bah non,
on
ça
a
c'est
envie.
Sûr.
Bah c'est sûr, on n'a pas les sous, on n'a pas le.
Ah bah non, 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 t'as pas le talent surtout.
Il y a pas, il manque. Non, mais les déchets techniques à ce niveau-là, c'est frustrant. Aubameyang, la balle du 3-1 limite contre Paris, qu'il la perd. Il joue, il a 36 balais. Il aurait pu, je sais pas, l'emmener sur le corner.
Ah ouais, c'est vrai, c'est terrible ça. Comme ça.
Donc, arrête voilà, de chauffer que... toi.
Ouais, non, mais c'est, je m'en doutais tout de suite. En face de moi, j'ai un, enfin, en face de moi.
Et toi, excuse-moi, et toi, tu en veux, excuse-moi, et toi, tu en veux à qui? Tu en veux à l'entraîneur ou tu en veux au joueur, alors?
Bah, pour certains là, j'en veux au joueur. Parce que, il y a un moment donné, on a envie de leur dire quand, bouger, c'est pas possible de perdre des ballons comme ça, de perdre, de pas réussir un contrôle, de faire des relances, de marquer les buts contre leur camp, là, contre, bah, je sais pas, il y a des fois, on a l'impression que, les mecs, ils ne se rendent pas compte que derrière, il y a 65 000 supporters qui sont là. Et puis 65 000, voilà, des fois un peu plus, on va dire comme ça, dans le stade. Il y en a qui se tapent des 800 bornes ou plus que nous. Il y en a qui traversent
la. Non, mais je pense que c'est, Stéphanie,
ça nous énerve, en fait.
Non, mais ouais. Je pense que les joueurs en ont conscience. On est passé par là aussi. Ce que je veux dire, c'est que quand tu rentres dans un stade, tu commences un match, bien sûr que tu ne vas pas penser à la personne qui a fait des milliers de kilomètres pour venir. Du moins, tu penses déjà à être performant individuellement et aussi collectivement à tirer le maximum. Mais c'est pour ça, la question du gars, c'est tu peux en vouloir aux joueurs, mais t'as un entraîneur aussi qui met des choses en place, et c'est vrai que on a quand même l'impression que même lui, il a le plafond de verre, il l'a atteint en Ligue des Champions sur les gros matchs.
Niveau d'analyse, hein, moi, de foot, et ça, j'ai joué, mais pas assez hein, pour tout ça. Mais puis ouais, j'ai plus de 50 balais, donc il y a des trucs, voilà, je comprends ah ouais. pas forcément tout, mais. Il y a des fois, effectivement, on comprend pas. On comprend pas pourquoi il en sort, pourquoi est-ce qu'il fait ces changements-là, pourquoi. Mais à l'inverse, moi, je comprends pourquoi, contre Lens, il en a mis quelques-uns sur le banc, peut-être pour les reposer, mais aussi peut-être un peu pour les piquer.
Pour les piquer, ouais.
Les piquer au vif. Mais d'un autre côté, il y a des fois quand on comprend pas pourquoi certains sont là et d'autres pas, ou pourquoi il les change de poste. Mais voilà. Après,
bah écoute, après De Zerbi, il est comme ça. Moi, franchement, ouais, moi plus ça va, moins ça va. Moi, dans la relation que j'ai, dans l'estime que j'avais pour De Zerbi. Moi, l'année dernière, je l'ai souvent protégé. Cette année, en effet, je suis parti du principe qu'au bout d'un an, bah, on est en droit d'attendre un peu plus de régularité de sa part. Et puis, il s'est complètement perdu
t'es
en communication.
Trop dur, t'es pas sympa.
Non, et moi, je vais te dire, du gars, là où il me déçoit, c'est que je le voyais pas comme ça, mais je pense qu'en effet, c'est quelqu'un qui a du mal à se remettre en question, et c'est jamais de sa faute, en fait. C'est jamais de sa faute, c'est jamais ceci, il en veut à la terre entière, et je le voyais pas comme ça l'année dernière.
Après, tu le jugeras peut-être après ce soir, non, ça dépend comment il se qualifie.
Non, écoute, quelqu'un qui touche plus terre, tu le vois déjà, et je pense que lui, il est totalement là-dedans.
Bon, merci voilà. Stéphanie d'être venue au 32-16, bon match ce soir, Bruges, Olympique de Marseille à 21h. Flo, on a des indices pour la compo d'équipe de De Zerbi ce soir ou pas encore ?
Bah, y a une compo qui se dégage et qui est assez logique d'ailleurs vu les forces en présence du côté de l'OM. Évidemment, Rouli dans le but, Balerdi, Aguerd et Medina pour trois axios, Wea et Paichao, il y avait un petit doute et on n'a pas pu le lever totalement aujourd'hui parce que il s'est entraîné à part hier, mais a priori il compte quand même sur sa capacité à prendre le couloir. Murillo, ça avait été un vrai échec contre ouais. Liverpool dans ce couloir là en l'absence de Emerson. Kondogbia, Oibia au milieu de terrain et Greenwood, Guiri, Traoré pour le trio offensif. On n'est pas à l'abri d'une petite surprise.
Oui.
Avec Roberto De Zerbi, c'est souvent le cas. Mais
Vermeeren, il a quoi Vermeeren maintenant?
Vermeeren, écoute, bon, tu sais qu'il a été suspendu contre Nantes pour ouais. un tacle sur Anthony Lopez. Roberto De Zerbi avait dit qu'il l'avait trouvé moins bien, même mentalement, ces dernières semaines. Donc, ils ont eu pas mal d'échanges tous les deux. Mais c'est vrai qu'il est... Il a plus de temps de jeu depuis sa suspension.
Ouais. Bon,
est-ce que ça peut être l'une des surprises du jour?
Allez au placard.
Flo, tu reviens dès que t'as la compo. Antenne ouverte dans Rotten sans flamme pour la compo de l'OM face à Bruges. Et on reparle de Bruges d'ailleurs à 18h45 avec Manu Jousse, commentateur de la RTBF, qui va tout nous dire de ce club Bruges. Bruges une fois. Le handball, comment vont les Bleus? Est-ce qu'ils réagissent face à l'Allemagne à l'Euro, Nico Paul Orsi?
Oh mal, là, les Bleus vont mal, ils sont menés de 4 buts, 13 à 9. Arrêtez avec ça, vous commencez à me faire douter. Mais Dikamem est exceptionnel. 6ème but,
mais oui.
Français.
Il est là, la patte gauche.
À Yorick Nord qui court et qui va permettre aux Allemands de marquer sur le jeu rapide. On n'est pas présent dans l'intensité. 14 à 10 pour les Allemands, il reste 8 minutes en première période.
Mais qu'est-ce que c'est que cette défense?
Quelle idée du gars d'envoyer le mec qui suit les Girondins suivre le hand. Comment veux-tu qu'on gagne? Ouais, quelle histoire.
Ah bon. C'est des armoires les Allemands, il faut tous 3 mètres.
Franchement, ils bougent pas, ils prennent des taquets, ils bougent pas les mecs.
Allez, dans un instant, le procès de Pocognoli, l'entraîneur de l'AS Monaco, qui lui l'a annoncé. Il vise le nul ce soir contre la Juve.
Il est bon aussi.
Pour se qualifier pour les barrages de Ligue des Champions.
Il est tombé dans la marmite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h30 sur RMC, on est là. On est bien dans Rotten sans flamme. La deuxième demi-heure de Rotten sans flamme du soir, c'est maintenant avec Jean-Pierre Papin, avec Christophe Dugarry et avec Benoît Boutron. Dans 15 minutes, on reçoit notre confrère
RTBF. Manu Jousse.
Manu Jousse.
L'accent belge pour voir ?
Non, je suis très mauvais en.
Du gars, essaye l'accent belge pour voir ?
Pas du tout. Respectons les Belges, s'il te plaît.
JPP, tu veux pas y aller non plus ?
Ah bah, Jean-Pierre, il a joué en Belgique.
Je vais pas y aller, moi.
Il a joué.
Allez, JPP, là, qu'est-ce que ça donne alors ? Un peu de courage.
C'est vrai, quoi. Je me souviens d'une interview de toi.
Attends, il s'est lancé.
Tu rajoutes une fois de temps en temps et ça le fait.
Allez, à toi, du gars.
C'est bon, on l'a enregistré.
Non. Alors, on va tester. Je football. Moi, je suis un mec, je prépare. Moi j'ai préparé l'émission, je suis pas là pour faire des dingueries, bien des machins, mais moi je suis dans mon émission, là je suis concentré.
Ah, pardon,
je t'en prie.
Jean-Pierre, il faut jamais faire ce que t'as fait. Parce que là maintenant ils ont une.
On a ça pour la prod désormais.
Pas grave.
Est-ce que Nicolas Pollersy maîtrise l'accent belge? L'Euro de hand, le match important pour l'équipe de France contre l'Allemagne.
Et les Bleus maîtrisent encore moins l'accent allemand depuis le début de cette partie, puisqu'à moins de 3 minutes de la partie, ils sont menés de 3 buts. Mais on a un ballon pour revenir à 2 buts. Là, un pénalty pour Hugo Desca. Ça va un tout petit peu mieux pour l'équipe de France qui a retrouvé de la stabilité avec l'entrée de Thibaut Brié. Allez, ce pénalty, il est important. Juste avant la mi-temps, Hugo Desca face à Andy Wolf. Il en a raté un tout à l'heure. Il l'a mis sur le poteau. Desca, c'est le spécialiste français en la matière. Ça passe. Les Bleus recollent à 2 buts. 16-14 pour l'Allemagne. 2 minutes 20 secondes à jouer.
RMC, Rotten sans flamme.
Henri, c'est chez toi ici.
Et qui m'a appelé Henri là? C'est ça l'éducation, moi, la jeunesse. Thierry, la jeunesse. Après, il n'y a plus d'éducation, plus de respect. Ah bon?
Ça va?
Ah bon? Voilà, tout doucement. Voilà.
Le procès de Rotten sans flamme.
Sacré tir, Henri. Et tiens, c'est très drôle. Sur le numéro WhatsApp d'RMC, le 06 12 424 424, j'ai Stéphanie qui m'écrit. C'est encore Stéphanie, j'ai oublié de préciser que si je vais aussi souvent au Vélodrome, c'est parce que mon mari et moi sommes abonnés au Virage Nord. Effectivement, notre passion pour l'OM est plutôt forte. Tu m'étonnes.
Ah bah ouais.
800 km à chaque fois pour aller au Vélodrome. Bravo Stéphanie, ça c'est la passion du foot. Ouais. Alors, objectif barrage également pour Monaco ce soir, réception de la Juventus au stade Louis II. Monaco a 9 points comme l'OM, mais une très mauvaise différence de but. Moins 6. Alors, une défaite condamnerait certainement les joueurs de Pocognoli. En face, la Juve voudra gagner en plus pour tenter d'accrocher le top 8. Écoutez le coach belge qui va certainement calculer ce soir pour essayer de se qualifier pour les barrages.
Je pense qu'il faut se focaliser sur notre plan de jeu et ce qu'on veut mettre en place, mais forcément qu'on doit aussi savoir dans certaines circonstances ce qui se passe dans d'autres matchs. On sait que prendre un point nous assurera quasiment la qualification. Donc à partir de là, il faut jouer pour ça de manière audacieuse mais réfléchie.
Rappelons que Monaco va mal, hein. C'est la pire équipe de Ligue 1 sur les 9 dernières journées. Il y a 9 joueurs absents en plus pour Pocognoli ce soir. On fait donc son procès ce soir, lui qui vise le nul face à la Juve. Un procureur, c'est Jérôme Rotten, bonsoir.
Bonsoir.
Deux avocats pour Pocognoli, Maître Dugarry, bonsoir.
Bonsoir.
Et Maître Papin, bonsoir.
Bonsoir.
Et puis Paul, supporter monégasque, va rendre le verdict au 32-16. Salut Paul.
Bonsoir l'équipe, bonsoir tout le monde, très content d'entrer avec une très belle équipe ce soir.
Eh bien, ravi de te recevoir, sois le bienvenu et sois objectif dans ton verdict. Jérôme, vas-y, qu'est-ce que tu as pensé de cette décla et de cette stratégie assumée alors?
Bah écoute, moi j'ai toujours du mal avec... quand tu prépares un match de foot, c'est pour le gagner. Alors bien sûr que tu dois aussi faire en fonction au fur et à mesure du match et des minutes par rapport à. Il faut pas être complètement con non plus en se disant si un match nul nous va un quart d'heure de la fin, on va peut-être pas prendre énormément de risques pour aller chercher une victoire et te faire contrer. Mais ça, tu t'adaptes sur les fins de match en général. Le meilleur moyen de se planter c'est en effet de préparer un match pour ne pas le perdre. Pour faire un match nul, t'as un point au départ. Bon, bah, écoute, on va essayer de conserver ce point-là. Et puis après, on s'adaptera aux événements du match. Moi, en fait, je comprends pas la communication de Pocconioli. Pocconioli, il est arrivé avec beaucoup de fraîcheur. Il connaissait pas l'AS Monaco, il s'est renseigné, il a essayé de mettre quelque chose en place, de la stabilité, de la confiance, et redonner à ce vestiaire le goût de l'effort et le professionnalisme qui est essentiel pour n'importe quel club de football, et pas qu'à Monaco. Mmh.
Il a bien réussi d'ailleurs.
Il a bien réussi, la preuve, c'est que à l'arrivée, ils ont une série terrible en championnat, c'est la plus mauvaise équipe. Heureusement, ça a été bonifié en quelque sorte sur leur victoire contre Galatasaray au mois de décembre, à l'arrache, hein, on va dire. Et ils ont joué Galatasaray, qui n'est pas la meilleure équipe d'Europe, mais ils gagnent quand même. On va pas lui retirer cette victoire-là. Non, mais nul contre City, je crois qu'il y était pas. Il y était. Il venait d'arriver.
Ouais, il était là.
Il venait d'arriver. Donc, écoute, il n'y a pas de souci. Si tu penses que le nul contre City et la victoire contre Galatasaray te donnent le droit, si tu veux, de communiquer de la sorte, en disant on va essayer de jouer le match nul, comme ça on est sûr de se qualifier. Écoute, moi je pense que c'est la meilleure des choses pour se planter, et d'autant plus que je te dis, dans sa communication, plus ça va, moins ça va. Ce que je veux dire, c'est que quand tu te trompes, tu te dis, tu t'enchaînes des défaites, tu prends 6 buts à Madrid avec des joueurs qui lâchent, et que tu nous sors et tu nous expliques que s'il y avait des choses à changer,
si c'était à faire, tu ferais la même chose.
Exactement, ouais. Tu ne changerais rien. En fait, c'est quoi cette communication? Et surtout, quand tu vois que c'est le feu dans les tribunes. Parce que la vérité, c'est que il y a pas énormément de supporters de l'AS Monaco qui vivent à Monaco en effet, donc la pression, t'as du mal à la ressentir. Mais il y a quand même des gens qui se sentent très proches de ce club-là et qui ont ce côté passion en eux. À Monaco, c'est historique. Il y a toujours eu des équipes très joueuses, des équipes qui jouaient bien au football et qui arrivaient. Tu le sais pas, des fois, faute de moyens, t'arrivais quand même à déjouer les pronostics. Parce que t'avais un jeu pour aller de l'avant. Écoute, tu dois avoir un entraîneur qui te donne envie d'aller de l'avant et envie de les supporter. Les supporters, aujourd'hui, il y a un ras-le-bol. Et tu crois que, déjà, qu'ils sont mis en grève dernièrement. Là, ils ont pas forcément envie de venir au stade. Pourtant, c'est un match décisif. Déjà, le message que t'envoies pour qu'ils viennent encourager l'équipe, c'est bon, on va jouer le match nul. Tu vois, écoute, c'est le meilleur moyen pour perdre 1-0 et puis de passer à la trappe. Alors que t'as quand même la chance, parce que c'est une chance,
d'être encore,
en vie. Et si tu as un résultat positif, t'es qualifié.
Alors, le handball, c'est la mi-temps, et c'est la mi-temps sur le plus gros écart du match entre l'Allemagne et la France, Nicolas Paul Orsi.
4 buts d'avance pour les Allemands, on prend beaucoup trop de buts, on est mené 19-15 à la mi-temps et franchement on n'a pas trouvé de solution, on a fait une fin de première période assez catastrophique. C'est inquiétant pour les Bleus qui sont pas dans le match. Va falloir inverser les choses très vite en début de deuxième.
Bon, merci Nico,
juste vous m'avez repris, mais j'avais raison, Pocconioni n'était pas là contre Manchester City, hein.
Ah bon,
c'était contre Tottenham qu'il était là.
Ah oui, c'est vrai, Dutter avait sauvé sa tête.
La prochaine fois, me reprenez pas,
j'avais un doute, pardon monsieur Rotten. Parole à la défense, maître Dugarry.
Non mais moi je suis choqué qu'on puisse s'attaquer à mon client pour de tels propos. Il démontre juste et il a l'image de son équipe, de son club et de ses joueurs. Ce club est à l'agonie avec des changements de directeur sportif, d'entraîneur, en veux-tu, en voilà. Cette équipe, elle est à l'agonie. Ce soir, 9 blessés. Lui, il est à l'agonie. Il a plus de solution. Même quand il prend des casquettes, il te dit je change rien. Donc voilà, ce club aujourd'hui est à l'agonie. J'ose même pas imaginer, ce qu'on aurait fait et ce qu'on aurait pu dire si mon client avait dit on va aller chercher la victoire, on va les taper, on est les plus grands, les plus forts, les plus beaux. Il arrive avec beaucoup de modestie, il sait aussi toute la difficulté qu'a son équipe aujourd'hui et toute la difficulté qu'il a lui aussi à gagner des matchs et à fournir du jeu. Donc voilà, il arrive avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de modestie. Je pense que vu la situation actuelle, il peut pas en être autrement. Qu'on puisse accuser mon client aujourd'hui d'être humble et d'être modeste, c'est la moindre des choses. Il arrive en klaxonnant il arrive en faisant le barbeau et en faisant le malin. Je vais éclater tout le monde. On dirait mais c'est quoi ce guignol? Donc voilà, je pense qu'il a l'agonie, comme tout à l'image de son équipe et de son club. Donc il cherche à être peut-être gagne petit, mais si ça peut lui permettre de se qualifier, ce match nul, il a raison de réfléchir et jusqu'au bout de calculer.
Maître Papin.
Moi, un peu d'accord avec Jérôme sur la com. C'est vrai que J'ai du mal à comprendre de temps en temps le discours. Après, être modeste et humble en football, moi j'ai tenté, mais ça marche pas. Jamais, parce que t'es toujours rattrapé par des questions qui vont être là pour te mettre des pics, pour te mettre vraiment des emmerdes. Et après sur le discours
c'est pour ça que De Zerbi il parle comme ça.
Ouais. Non, non, mais je comprends mieux. Non, mais c'est bien. Et sur le discours du un partout, au moins pour une fois, le message il est clair. Il est clair, parce que pour moi ça l'a pas toujours été. Quand je voyais les compositions, je lisais tout ce que je voyais, et sincèrement ça me paraissait pas clair. Mais au moins là, il a 9 blessés, il sait qu'il a une équipe qui aujourd'hui est au rabais, et que si c'est un point qui lui va pour se qualifier, il va faire tout pour le faire. Et ça, je trouve ça déjà courageux de l'annoncer, mais pourquoi pas.
Le verdict de Paul, supporter monégasque, alors, qui remporte ce procès, la doublette du Gary JPP ou Jérôme Roten, la légende de Monaco?
Eh bien, c'est qu'à dire match nul, pour reprendre Philippe Oscioli, parce que tout le monde a un peu raison, et je vais reprendre un peu les
Il faut trancher quand même, monsieur le juge.
Je suis d'accord avec Jérôme. Moi, je n'apprécie pas, et Jean-Pierre, je n'apprécie pas la communication de Pocognoli. Quand l'interne avec ses joueurs, il a 9 blessés, on a beaucoup de questions, aussi bien sur Pocognoli que sur le staff qu'il y a derrière lui, parce qu'il a une tête de pro, mais il y a quand même du monde derrière lui, dont on se pose beaucoup de questions sur la compétence. Bon, aujourd'hui, ça n'élève plus de doute. Mais il est face à des médias qui en attendent plus. La série de Monaco, c'est la plus noire de l'histoire du club. Ça n'est jamais arrivé. On parle aujourd'hui de Monaco qui a la plus mauvaise série de Ligue 1. On parle d'un club majeur. Jérôme, toi qui as porté ce maillot pendant 2 saisons et qui a fait une finale Coupe d'Europe,
tu as pu
vivre à quel point il est majeur. Moi, j'ai connu l'épopée de 2004. J'étais fier d'être supporter monégasque. Aujourd'hui...
Ah, de rien.
Aujourd'hui, tous les week-ends, j'ai peur. Et la déroute face à Madrid, au bout du 3e but, je me suis dit, bon, ça c'est fini, c'est bon, c'est pas la peine. On nous dit, il nous faut du renfort. Bon, quand il était à Reims, il était très bien. On va chercher un joueur qui est presque placardisé à Leicester, qui n'est pas en forme, qui n'a pas assez joué. Bam, 2 matchs, en tant que titulaire, il est blessé pendant plusieurs semaines.
Encore une
erreur. Et pour Pocognoli, par contre, je prends sa défense sur le point où il arrive en cours de saison avec un effectif qu'il n'a pas choisi, avec un staff qu'il n'a pas choisi, avec des responsables aussi bien au niveau médical.
Oh, après ça, il le sait aussi. Hein.
Oui, Paul, mais peut-être qu'il ne connaissait pas la gravité de la situation.
Tu donnes par la victoire contre, à Jérôme alors?
Bah oui.
Allez, je vais dire la victoire à Jérôme. Désolé pour mon frère qui est supporter marseillais, je contrarie deux grands marseillais.
On a tous des problèmes dans la vie.
Ce que je trouve déplorable de la part de Pocognoli, moi en tant que supporter et en tant que juge, c'est qu'on sait en interdit. Il a 9 blessés, il a des gros problèmes, il est sur une série noire, mais il ne peut pas se permettre, parce qu'il est en conférence de presse, il est face aux médias. Mais il ne faut pas qu'il oublie qu'aujourd'hui, maintenant, avec toute la technologie et les réseaux sociaux, il y a aussi tous les supporters, que ce soit ceux qui seront ce soir à Monaco ou Louis II, mais ceux qui sont tout au fond de la France. Ouais. Moi, je suis dans le Béarn, je ne suis pas content d'entendre que l'entraîneur de mon équipe préférée se dit « Bon, on va jouer le nul ». Non.
Et le discours ne te plaît pas, voilà, ça ne te satisfait pas.
Qui montre, qui dise « On va aller le plus loin possible, qu'on va essayer de se battre, on a une mauvaise différence de but, on est mal en Ligue 1, on a 2 doigts d'être éliminé en Coupe de France parce qu'on galère face à un club qui est plus petit que nous, on est mauvais partout. » Eh bien, écoutez, ce soir, on va faire la révolution contre un gros d'Italie qui nous a malmené en 2015, qui nous a malmené en 2017, et on va essayer de le battre. Purée, ça ferait du bien, ça.
Ouais, Paul.
Paul, on te souhaite un bon match ce soir.
En tout cas,
on espère que ça se passe très bien pour l'AS Monaco.
On espère quand même qu'ils vont se qualifier et qu'on arrive à avoir 3 clubs en 16e de finale.
Une large victoire de Jérôme Roten dans ce procès. Large, très large. À Christophe Dugarry et Jean-Pierre Papin. Il n'y a pas eu photo.
Les deux vieux, là.
Allez, dans un instant.
Merci, Benoît.
Roten se chauffe. On va tout savoir du club Bruges avec la légende du commentaire sportif en Belgique, Manu Jousse.
RTBF.
À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h48, dans Roten sans flamme, c'est la Ligue des Champions. Oh là là, on l'aime cette musique. Grande soirée ce soir. Monaco, Marseille, Paris Saint-Germain de sortie. On est avec Christophe Dugarry, avec Jean-Pierre Papin et avec Benoît Boutron. Bah, on va se lancer sur le match crucial pour l'Olympique de Marseille, Bruges, Olympique de Marseille ce soir. Donc on va recevoir
dans Manu Jouf, la légende de la RTBF, avec nous d'ici quelques secondes.
Et après 19h,
on parlera du PSG.
On va parler du champion d'Europe.
Est-ce que manquer le top 8, ce serait un échec pour les Parisiens? 32-16 pour participer avec nous. Et je précise qu'au handball, c'est la mi-temps, le dernier match du tour principal. L'équipe de France est menée de 4 buts, 19 à 15, la seconde période, à suivre sur RMC.
Il peut retourner s'il a retiré son maillot des Girondins.
Nico ?
Ouais, ouais.
C'est ça qui porte la guigne.
Il l'avait en dessous.
Arrêtez de porter le scapulaire.
Là, il vient de le retirer, normalement, ça devrait aller.
Ah, bah, merci. Allez, allô, Jérôme, c'est parti.
RMC, Rotten sans flamme.
Hasard pour Cavani qui est toujours là dans le grand rectangle puisqu'il était monté sur le corner.
Extraordinaire! Vincent Kompany sur le quatrième but. Et alors là, une cartache.
Oh, c'est magnifique.
Cartache.
Ah oui, là, c'est Vince the King, mais définitivement.
Allô, Jérôme.
Je salue tous nos auditeurs belges qui m'envoient plein de messages sur le numéro WhatsApp, qui sont ravis de voir que nous allons accueillir Manu Jousse, la légende de la RTBF. Salut Manu.
De Rotten sans flamme. Salut Manu.
Mais quel accueil, bonsoir les amis, et très content d'honorer notre petit rendez-vous mensuel.
Ben voilà. Ben oui, on a hâte de t'entendre sur le niveau de Bruges, comme on t'a entendu sur l'Union Saint-Gilloise.
Et ça nous a porté chance en plus.
Et puis on a été malheureux les Belges sur ce match contre Marseille avec l'Union Saint-Gilloise.
Ouais.
Est-ce que ce soir tu penses que Bruges peut le faire?
Bon, alors c'est vrai qu'avant le match de l'Union, j'avais dit pour moi c'était du 50-50 et on est passé effectivement tout près avec une fin de match qu'on ne doit plus rappeler ici et quelques décisions arbitrales qui n'ont pas vraiment été favorables à l'Union. Autant ici, je vois ça comme étant beaucoup plus déséquilibré en faveur de Marseille.
Ah oui.
Parce que Bruges pour l'instant n'est pas dans la meilleure période de sa saison, encaisse beaucoup. A pris 3 buts lors de ses 2 dernières sorties à domicile et 9 sur l'ensemble de ses matchs au mois de janvier. Donc il y a des gros soucis derrière, alors que d'habitude c'est quand même une des marques de fabrique aussi du club de Bruges. Il y a l'éventuel et probable retour dans les buts de Simon Mignolet qui devrait faire du bien. Mais face au Marseille que l'on voit pour l'instant...
C'est une bonne nouvelle ça Manu, le retour de Mignolet.
Ouais. Ah oui, ben ça n'a pas l'air de l'aide pour vous.
Non. Manu, ce qui est particulier, c'est que nous, on reste sur l'image, et on était avec Jérôme d'ailleurs ce soir-là, du club Bruges, qui avait très bien démarré en éclatant l'AS Monaco dès la première journée.
Ouais.
Et après, il ne s'est pas passé grand-chose
pour accrocher Barcelone quand même.
Ouais. Non, mais bon, c'est vrai que le calendrier n'a quand même pas été des plus simples. Vous avez dans vos adversaires le Bayern Munich, Barcelone, contre qui Bruges a quand même pris un point, Arsenal, enfin c'est vraiment tout ce qui se fait de mieux. En fait, les dirigeants avaient dit, en voyant le tirage, on vise 3 points contre Monaco, ça a été fait, 3 points à Almaty, ça a été fait, 1 point à gauche, à droite, bon, il y a eu que celui contre Barcelone, mais déjà très bien. Et puis, on vivra sans doute une finale la dernière journée contre Marseille. Et
c'est le cas.
C'est à ce scénario-là qu'on s'expose, effectivement.
Ouais. On précise que Bruges doit gagner pour se qualifier.
Oui.
Après, il y a quand même un contexte, Manu. Alors, je veux bien entendre les problèmes de Bruges, et ça, t'es bien mieux placé que moi pour les juger en ce moment. Mais nous, ce qu'on voit aussi, c'est que on se rappelle du match contre Monaco, une équipe qui est très offensive avec des joueurs très performants et d'autant plus à domicile parce que bon, moi, j'y ai joué quelques fois à Bruges. Jean-Pierre, il a joué beaucoup plus que c'est vrai qu'il y a quand même une atmosphère particulière. C'est jamais facile pour les équipes adverses de venir se déplacer à Bruges.
Oui, c'est vrai que c'est une donnée importante parce que quand on parlait de l'Union le mois dernier, ben déjà l'Union ne jouait pas dans son stade, à Anderlecht, c'était pas la même chose. Le 12e homme, le public du stade Jan Breydel ou de l'Olympia Park, comme on disait à l'époque de Jean-Pierre, c'est quelque chose. Ça peut transcender une équipe.
Ce soir, c'est une finale. Pour moi, c'est pas le même contexte. Tu vas jouer à Bruges. C'est quand même sur toute la partie aller de cette Ligue des Champions, cette phase. Là, c'est le gagnant, il se qualifie quoi qu'il arrive. Donc, c'est un match qui peut donner autre chose que le train-train habituel, quoi.
Oui, tout à fait. Donc effectivement, c'est une donnée importante, c'est-à-dire que Bruges doit absolument gagner. Ce ne sera peut-être même pas suffisant. Donc, va laisser des
espaces. Ce sera suffisant, Manu. Ils auront 10 points. 10 points, tu passes.
Ah, 10 points, tu passes, ouais. 10 points,
tu passes. Il faut quand même voir les autres résultats aussi.
Ouais, c'est pas... mais non,
normalement, il y a 99% de chances de
passer. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire, nous, alors?
Ouais, c'est ça.
Non, mais Manu, j'ai encore deux questions pour toi. L'ambiance qu'il y aura au stade, est-ce que c'est un stade réputé pour son ambiance hostile pour les équipes adverses? Est-ce que ça va être une grosse ambiance européenne ce soir à Bruges?
C'est pas hostile.
Oui, ce sera
c'est
une grosse ambiance européenne, ça c'est certain. On en parle depuis très longtemps de ce match. C'est vrai qu'un stade de Bruges qui est rempli, il peut y avoir une ambiance hostile. Effectivement, parfois au niveau du championnat belge, une influence même inconsciente ou indirecte sur l'arbitrage. Bon, ici on est au niveau européen, c'est différent, mais l'équipe va être transcendée, c'est certain. Donc là, on n'aura pas nécessairement celle qu'on a vue péniblement battre Zulte Waregem 4-3 le week-end dernier. C'est comme si on remettait les compteurs à zéro. Et certains joueurs, ben, vous avez eu Forbes contre Barcelone, parfois c'est de Solis, parfois c'est Van Aken. Bon, voilà, à mon avis, certains vont vraiment sortir de leur coquille.
Et puis j'ai une autre question pour toi, mais elle concerne un autre match d'un club français, c'est donc Monaco qui va affronter la Juve. Comment vous jugez en Belgique les débuts délicats, voire très délicats, de Pocognoli à la tête de Monaco, alors, qui était parti d'ailleurs en cours de saison de l'Union Saint-Gilloise?
Oui, mais un peu surpris, parce que franchement, il avait fait du très bon boulot ici avec l'Union, pas uniquement parce que l'Union était championne et était en tête du classement, mais parce que franchement, il apportait quelque chose dans son approche qui était assez audacieuse, offensive. Il avait une vision claire de ce qu'il voulait installer, et que ça se passe si difficilement et même si mal pour l'instant à Monaco, n'était pas vraiment attendu, en fait.
Est-ce que dans la coupe communication, il était aussi des fois limite, parce que nous en France, il nous fait des déclarations qui sont hallucinantes. Là, on a fait le débat juste avant. Je sais pas si t'as écouté, mais on parlait de son attitude. Quand tu disais que c'est un entraîneur qui prenait le jeu offensif, qui prenait des risques, t'imagines qu'aujourd'hui, il a quand même dit, on va jouer le match nul contre la Juve, et ça, un match nul va nous qualifier.
Ouais. Non, mais c'est un genre de discours qui ne tenait pas ici, effectivement. Justement, on trouvait que par rapport à d'autres, il était moins langue de bois, parce que là, on en connaît et des dizaines. Et donc, à la fois dans son approche et dans sa communication, il était plutôt intéressant. Et il a visiblement un petit peu changé cette façon de faire depuis qu'il est à Monaco.
Manu, bon match à toi ce soir. Club Bruges, Olympique de Marseille. Et tu reviens quand tu veux pour nous parler des clubs belges ou de la sélection belge. C'est...
Puis on te rappellera si Bruges fait l'exploit alors contre Marseille.
Voilà, avec plaisir.
Bon, on le souhaite pas.
Non, on le souhaite pas.
Évidemment.
Il m'a sapé un peu le moral sur
le
niveau de
Bruges. 56.
Allez,
merci Manu. Bonne soirée.
Salut Manu.
Le handball. Nicolas Paul Orsi, est-ce que ça va mieux pour les Bleus début de seconde période contre l'Allemagne?
On est à moins 5.
Non, ça va pas mieux. Et franchement, je vois pas comment on peut le gagner ce match-là. C'est pas possible. 24-19 pour les Allemands. On n'a pas d'arrêt de gardien. On déjoue totalement en défense. Les Allemands sont en train de nous défoncer en défense, il faut le dire comme ça. Clairement, on n'arrive pas à gagner le rapport physique face à cette équipe d'Allemagne. Pourtant, sur le papier, les Français sont meilleurs depuis le début de la compétition. Mais là, il n'y a vraiment rien qui va. 24-19 pour l'Allemagne. Il reste 25 minutes dans ce match.
Fischer, c'est un beau bébé. J'aimerais pas le prendre.
Physiquement, c'est tous des beaux bébés.
Fischer, c'est incroyable. C'est fou.
Allez, on revient dans un instant. On y croit toujours. Et puis, on parle du PSG. Est-ce que manquer le top 8, ce serait un échec pour les Parisiens? 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.